Bonjour à chacun, chacune d'entre vous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci à votre pasteur, Monsieur Gau, pour l'invitation qu'il m'a adressée. Alors, on se connaît depuis des années, puisque moi, j'étais tout jeune converti, que notre frère rentrait de mission, et il faisait des camps de jeunes à Gap, et on a été vraiment enrichis, bénis au travers de son ministère, à l'époque et encore aujourd'hui. Donc merci beaucoup à Monsieur Gau, merci aussi à vous pour ce moment, pour votre écoute. Vous savez que la Bible dit de prendre garde à la manière dont on écoute. Il y a une manière d'écouter la voix de Dieu, d'écouter la parole de Dieu, et nous voulons vraiment que le Seigneur nous donne d'écouter comme des disciples, avec une oreille aiguisée, que le Saint-Esprit puisse parler à nos cœurs ce matin. Je suis également heureux de voir Monsieur Olé, qui est là, puisque j'étais aussi étudiant à l'école biblique à l'époque. Notre frère enseignait là-bas, à l'école, et puis j'ai bénéficié de ses enseignements sur notamment la missiologie. Et donc, je suis très heureux de revoir notre frère. Je ne sais pas s'il se souvient de moi. J'étais quelqu'un de discret. À l'époque, c'est ce qu'on me disait, j'étais transparent à l'école biblique, et depuis, je suis un peu plus visible. J'ai à cœur de vous dire quelques mots en introduction, puisqu'on a jusqu'à 1h30, c'est ça à peu près ? 20h30, pardon. On enchaînera avec les baptêmes et tout ça. Et je revois aussi mes frères, là, Michael. J'ai travaillé aussi 6 mois avec Philippe Bach sur Dessine, puisque j'étais en stage là-bas. J'étais même reconnu, je crois, à l'époque. Mais on a travaillé avec le pasteur Philippe Bach ensemble également. On s'est beaucoup réjouis. J'aimerais vous adresser quelques mots concernant cette vision que vous avez de bâtir un lieu plus grand. Il y a quelque temps de cela, j'ai été donc acheter un arbre, donc que l'on m'a offert. Et moi, je suis pas du tout jardinier ou je fais pas ces choses-là. Mais c'est quelque chose qu'on m'a offert. Alors j'étais obligé d'aller l'acheter. Et quand je suis allé acheter mon arbre, donc tout de suite le vendeur m'a dit si vous voulez que votre arbre s'épanouisse, si vous voulez qu'il se développe, il faut changer de pot. POT. Il faut lui donner un environnement plus grand, plus important pour qu'il puisse continuer à se développer. Et c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre en ce moment avec notre assemblée. Nous connaissons aussi un problème de taille, d'environnement, puisque les gens, un peu même problématique que vous, ils viennent dans la rue parfois, et il y a tellement plus de place qu'ils s'en vont, ils ouvrent la porte, c'est blindé, et c'est assez gênant pour l'accueil. Et depuis des années, avant que j'arrive sur Saint-Étienne-du-Rouvray, qui est dans l'agglomération rouennaise, les pasteurs Daniel Potier et également Marc-Antoine cherchaient quelque chose, avaient eu des entretiens avec la mairie, avec le maire, mais jamais les choses se sont ouvertes, jamais les choses se sont réalisées. Et à la faveur de mon arrivée, j'ai repris l'église en charge et puis j'ai relancé, si je puis dire, la vision d'aller plus loin, puisque par la grâce de Dieu, les auditoires augmentent, l'église va de l'avant. D'ailleurs, c'est normal que l'église augmente, que les gens viennent dans l'église, et c'est normal qu'une église vivante engendre et qu'il y ait un développement spirituel dans l'assemblée. La Bible dit, et c'est une sœur qui a prié ainsi, je crois, ce matin, que l'Église s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit agit, eh bien l'Église se développe parce que c'est un corps vivant et tout ce qui est vivant est amené naturellement à se développer. Donc c'est quelque chose de naturel et surnaturellement que cela se produit, que l'Église, eh bien, se développe. Et par la grâce de Dieu, donc nous avons repris la vision initiale de ses frères, et le frère précédent me disait, tu sais, moi, à chaque fois que je vais rencontrer le maire, c'est comme Moïse qui va rencontrer Pharaon. Alors j'ai dit, ok, on va se préparer, on va prier, on va jeûner, et je sais que vous aimez beaucoup la prière et le jeûne, et on a été avec l'église dans 21 jours de prière, tous les jours on se réunissait dans l'intercession, on priait, on demandait grâce à Dieu, et l'église a vraiment suivi ces temps de prière, et par la grâce de Dieu, alors nous sommes allés voir la mairie, Et la première fois que j'ai rencontré le maire, à la surprise d'un des anciens qui connaissait les autres entretiens qu'il avait eus avec les pasteurs précédents, le maire m'a demandé pardon. Il s'est excusé de nous recevoir comme il nous recevait. Il a vraiment été incliné dans son cœur. Et la Bible dit que Dieu, en son temps, hein, c'est celui qui incline le cœur des rois. Et je crois que quand on se tient dans le jeûne et dans la prière, il y a des choses qui peuvent bouger, que ce soit sur le plan collectif, des projets, des choses que nous initions, mais aussi sur le plan personnel. C'est dans ces moments-là que nous sommes renouvelés, que nous sommes rafraîchis et que nous retrouvons également de la vigueur dans la foi et je dirais aussi de l'appétit spirituel. Merci Seigneur. Donc Dieu incline les cœurs. Dieu incline les cœurs même des autorités, même quand il y a de l'hostilité. Je crois que Dieu peut le faire. S'il le fait ailleurs, il peut le faire ici. Alléluia. Et j'ai développé toute une série de messages que j'ai intitulés avec l'Assemblée sur Saint-Étienne. Levez-vous et bâtissez. Levez-vous et bâtissez. Dieu appelle l'Église a encore se construire. Jésus disait que, il disait lui-même, je bâtirai mon Église, je la bâtirai, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Dieu a toujours eu le projet de bâtir, de construire, bien sûr avec des pierres vivantes, bien sûr le royaume est de nature spirituelle. Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger, le boire. La Bible dit que le royaume de Dieu, c'est la justice et la joie, la paix par le Saint-Esprit. Et je le disais hier aux jeunes, ça c'est le royaume de Dieu. Et juste après, il est écrit, « Celui qui sert Christ de cette manière est approuvé de Dieu et agréable aux hommes. » Servir Dieu d'une manière joyeuse et paisible, malgré les combats, malgré les hostilités. Vous savez, du temps d'Esdras et de Néhémie, c'était une période particulière qui avait besoin de réformes. Israël était parti loin en déportation à cause des péchés du peuple de Dieu. Et malgré les voix prophétiques qui s'élevaient, le cœur du peuple de Dieu n'était pas sensible, n'était pas obéissant. Et c'est souvent dans la souffrance, quand tout va mal, qu'on revient à l'Éternel. Et c'est sous l'impulsion de plusieurs réformateurs. Il y a eu Zorobabel, il y a eu Esdras, il y a eu Néhémie. Néhémie qui n'était pas un ecclésiastique. Néhémie, c'était les chansons du roi, mais c'était un homme qui avait un cœur pour Dieu, que l'on soit pasteur, scribe, écrivain, enseignant, ou quelqu'un, comme on dit aujourd'hui, laïque, qui n'est pas forcément impliqué, entre guillemets, à 100% dans l'œuvre de Dieu. Dieu peut œuvrer d'une manière puissante au travers de ceux qui ont un cœur pour lui. Et du temps d'Esdras et de Néhémie, il y a eu plusieurs réformes, plusieurs retours, deux ou trois retours. Et la Bible nous dit que, en filigrane, la thématique d'Esdras, de Néhémie, certains juifs pensent que Esdras et Néhémie, à la base, étaient un même et seul livre. Esdras, donc, a lui-même employé ces deux verbes, levez-vous et bâtissez, à l'encontre des chefs qui se sont levés et qui ont bâti, parce que tout commence avec le leadership, si je puis dire, tout commence avec les responsables qui sont debout et qui sont pleins d'énergie du Saint-Esprit. La Bible dit qu'ensuite ils vont bâtir l'autel, ils vont bâtir le temple, ils vont bâtir les murailles de Jérusalem sous l'impulsion de Néhémie. Nous sommes tous et toutes appelés à nous lever et à bâtir, car pour bâtir le royaume de Dieu, s'élargir, s'étendre, cela demande des forces, des énergies, mais je crois que Dieu est avec vous et qu'il va le faire à Toulouse. Souvent, avant que ces choses prennent place, il y a des combats, il y a des luttes particulières. Moi, personnellement, Ça fait, j'ai 37 ans, comme ça vous saurez tout, je me suis converti à 18 ans, et par la grâce de Dieu, eh bien, je n'ai jamais ratterri, je suis toujours par la grâce de Dieu en plein vol avec le Seigneur, mais je vous assure qu'il m'est arrivé un truc dans l'été juste avant que Dieu nous ouvre une porte de façon surnaturelle dans le jeûne et la prière, j'ai rencontré une épreuve qui allait me détruire spirituellement. Par la grâce de Dieu, Dieu m'a gardé, Dieu m'a fait grâce, mais ce que je sais, c'est qu'avant les bénédictions de Dieu, avant le lever du soleil, souvent la nuit est sombre, souvent les combats sont intenses, mais ces choses-là, en réalité, précèdent des temps de bénédiction, et c'est pour ça qu'il faut jamais décrocher, rester fidèle au Seigneur. Alors si les temps sont particulièrement difficiles, si vous sentez l'opacité de la nuit, des ténèbres, c'est peut-être que Dieu est en train de préparer quelque chose sans précédent pour l'Église. Et la Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Dieu est fidèle. Et si on lui est fidèle, eh bien, il accomplira ses promesses pour l'Église, pour sa maison. Levez-vous, bien-aimés, et bâtissez. C'est ce que j'avais à cœur de vous dire. Cependant, se lever et bâtir nécessite un réveil. Esdras, le livre d'Esdras, a commencé avec un réveil. Dites-moi, à quoi servirait-il, nous, c'est notre projet, de bâtir un auditorium de 500 places, à peu près, nous allons doubler notre capacité. À quoi servirait-il de bâtir un auditorium de 500 places si la vie de l'esprit manquait, par exemple ? Si les âmes n'étaient pas sauvées, absolument rien. Il faut absolument que l'impulsion, les mécaniques, la technique soient jumelées à une vie spirituelle, authentique, intense, un réveil qui vient de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin. Un réveil qui vient de Dieu. Le livre d'Esdras commence ainsi. Dieu réveilla l'esprit de Cyrus, un roi païen que Dieu va réveiller, que Dieu va susciter pour servir aux intérêts du peuple de Dieu. Ça vient de Dieu. Il va réveiller son esprit, sa conscience. Il peut parfois stimuler, favoriser certaines ambiances, mais là c'est un réveil de nature spirituelle qui a pris place. J'étais très heureux ce matin d'entendre quelqu'un prier pour le réveil. Est-ce que nous prions pour le réveil ? Vous savez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, c'est vrai. À cause de certaines caractéristiques animales des hommes. Au moins 20 aspects de la nomenclature d'un regard sociologique que Paul fait dans le livre de Timothée quand il entrevoit la fin des temps. Mais c'est vrai aussi qu'il est dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Moi, je soupire après une jeunesse embrasée par le feu du Saint-Esprit, qui apporte tes dons spirituels, puissants, tranchants, authentiques. Vos jeunes gens, vos jeunes filles prophétiseront, apporteront des paroles de consolation, édifieront le peuple de Dieu, consoleront, exhorteront, etc. Mais la Bible dit aussi, vos jeunes gens auront des visions. Les vieillards des songes, est-ce que c'est parce qu'ils dorment beaucoup ? J'en sais rien. Ou un peu plus. Parce qu'il y a des jeunes qui dorment pas mal, hein, les ados. Jusqu'à midi. Moi, je peux plus faire ça. Remarquez, c'est normal, je suis plus un adolescent. Des visions, pas des rêves. Vous avez remarqué, aujourd'hui, on entend beaucoup parler des rêves. Encore que c'est vrai que Joseph a eu un rêve. Il aurait mieux fait de se le garder pour lui-même, mais en même temps, il fallait que la prophétie s'accomplisse, que les plans de Dieu, les voies de Dieu s'accomplissent, et il avait sans doute besoin d'apprendre un certain nombre de choses. Mais des visions, des choses qui sont certaines, des choses qui sont fiables. Car déclarer quelque chose et que la chose ne se réalise pas, il n'y a rien de mieux pour nous décrédibiliser. Même si certains prophètes ont réussi parfois à retomber sur leurs pattes, parce qu'il semblerait que parfois Dieu dise une chose et qu'à cause de quelqu'un qui est prié, je pense à Ézéchias, le prophète n'est pas sorti du palais du roi, que Dieu lui dit autre chose. Bon alors, Seigneur, Dieu lui a rajouté quelques années à sa vie. Besoin d'un réveil, besoin que le Saint-Esprit souffle tout à nouveau sur nos vies, sur l'Église, que le Saint-Esprit vienne et suscite en nous à nouveau un appétit plus aigu pour les choses de Dieu. Une des caractéristiques de, non pas seulement de l'apostasie, mais du fait que l'on s'éloigne de Dieu, c'est que l'on perd notre intérêt. On perd notre faim et notre soif pour les choses de Dieu. Et c'est grave quand on a plus envie d'autre chose que des choses du royaume de Dieu. C'est grave quand nous perdons de vue les priorités du royaume de Dieu. Du reste, dès qu'on perd de vue les priorités, dès que nous ne sommes plus empreints de la présence de Dieu, de cette communion avec Dieu profonde dans le Saint-Esprit, ce sont les inquiétudes qui prennent le dessus. Vous l'avez remarqué? C'est pour ça que Jésus dit « Ne vous inquiétez de rien » qu'à la fin, il parle des priorités. Pardon. Il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » En d'autres mots, Jésus est en train de dire « Voici la clé pour ne plus s'inquiéter des choses humaines, des choses matérielles, des choses éphémères, passagères. Cherchez, attachez-vous, mettez votre cœur à vous attacher aux choses d'en haut. Et si vos affections, si votre cœur est vraiment attaché aux choses de Dieu, alors vous verrez par là même l'inquiétude diminuer, la paix surnaturelle de Dieu venir dans votre cœur s'installer de manière... Est-ce que vous n'aimeriez pas vivre de façon imperturbable ? Qu'y a-t-il de plus déconcertant, de plus variable que les circonstances de la vie? Qu'y a-t-il de plus variable que notre vie émotionnelle? Et pourtant la Bible dit « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix ». Combien nous devrions demander à Dieu de nous fournir cette force intérieure, cette fermeté de l'âme pour pouvoir résister aux circonstances difficiles, aux combats de la vie, aux épreuves de la vie. Dieu veut susciter un réveil. Dieu veut déjà nous réveiller. Dieu veut déjà, mon frère, ma sœur, te réveiller. L'apôtre Paul disait, c'est l'heure, c'est le moment, c'est le temps de se réveiller. C'est le moment, tout à nouveau, d'être revisité, visité par la grâce de Dieu. C'est le moment, c'est le temps de Dieu. Je ne sais pas si vous aimez le réveil. À quelle heure vous êtes réveillé ce matin? Comment vous vous êtes réveillé? Il y a des réveils heureux. Il y a des réveils malheureux. Noé, quand il s'est réveillé de son vin, il a été malheureux. Il s'est laissé avoir. Il a semé quelque chose qu'il a récolté un peu trop. Mais j'imagine que quand Adam s'est réveillé, après avoir été anesthésié par le Seigneur, parce qu'il se trouvait un peu seul, et qu'il a vu Ève, quel beau réveil! Mes frères, comment vous réveillez le matin quand vous voyez Ève à côté de vous? Alléluia! Réveil. Besoin d'un réveil spirituel. Je voulais vous partager ces choses parce que nous les vivons. Et par la grâce de Dieu, eh bien, Dieu nous a ouvert des portes de façon surnaturelle, étonnante, et je voulais vous encourager, parce que je sais que vous êtes dans cette période d'attente, et Dieu peut le faire. La Bible dit que tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. On n'a pas ouvert la Bible, vous avez remarqué ? C'est bien. On va ouvrir dans Ézéchiel, chapitre 47. C'était une longue introduction, hein. Ézéchiel, un texte bien connu, chapitre 47, et nous lisons au verset premier. « Il me ramena vers la porte de la maison, et voici de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. » Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulée du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme ? Il me ramena au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut partout où le torrent coulera, il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Eglahim. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces. Comme les poissons de la grande mer, ils seront très nombreux. Ces marais et ces fosses ne seront point assainies, ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Amen. Nous avons un cantique que nous avons chanté hier avec les jeunes. Plonge-moi dans ta rivière d'amour. Ici, le prophète Ézéchiel va à nouveau être emporté dans des visions, dans une vision particulière. Ézéchiel, c'est vraiment le prophète du souffle, le prophète de l'esprit, le prophète inspiré. La Bible nous dit dans Ézéchiel, chapitre 37, on va voir Ézéchiel être transporté dans une vallée, la vallée des ossements. Et là, il va être utilisé par Dieu pour prophétiser sur Israël, sur sa résurrection, sur sa renaissance. Et la Bible dit que le vent du Saint-Esprit s'est manifesté, venu des quatre vents, et a soufflé sur les ossements desséchés de façon extraordinaire. Eh bien, l'Écriture dit qu'il y a eu un frémissement, il y a eu ce cimetière qui s'est transformé, qui s'est muté en une armée d'hommes prêts au combat. Ézéchiel a été utilisé pour voir des choses prophétiquement se réaliser. Et je crois encore aujourd'hui que des années plus tard, Dieu, par le Saint-Esprit, est encore celui qui peut renouveler, rafraîchir, ressusciter des choses mortes. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Et il est capable, là où il y a l'abattement, le découragement, là où c'est complètement sec, de mettre la vie et la ferveur. Il est capable de le faire. Il y a quelque temps de cela, avant de venir sur Saint-Étienne-du-Rouvray, j'étais dans l'agglomération de Rouen, et quand je suis arrivé sur le Ménilénard, c'était un lieu de culte qui était rattaché à Rouen, j'ai eu à cœur d'ouvrir un endroit qui s'appelle la Vallée de l'Andelle, un lieu de culte qui était fermé depuis des années. Des années, les frères avaient dit, c'est bon là-bas, c'est la vallée, c'est trop difficile. Il y avait un beau lieu de culte. Et avec la grâce de Dieu, j'ai dit, on va y aller. Vous savez, moi, j'ai une foi simple. Dieu a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Vous savez que Dieu nous a tout donné. La Bible dit que sa divine puissance nous a donné tout, ce qui contribue à la vie et à la piété, parce que la piété sans la vie, ça peut être un peu sec aussi. Hein. Mais s'il y a la vie, alors forcément il y a la piété, il y a la véritable piété que celle engendrée par le Saint-Esprit. Et quand on est arrivé là, avec la grâce de Dieu, on a travaillé avec des chrétiens. Et aujourd'hui, dans cette vallée de l'Andelle, il y a un point où environ 40 chrétiens se réunissent. Il y a un couple qui s'est fait baptiser. Le voisin d'en face me téléphone régulièrement et il va prendre aussi le baptême. Rien n'est impossible à Dieu si le Saint-Esprit est là, si l'onction de Dieu est là, si sa présence est là. Je fais une différence en passant entre les dons spirituels et la communion du Saint-Esprit. On a besoin des deux. On a besoin d'être utilisé par le Seigneur pour manifester des charismes, mais on a besoin sans doute avant de produire un fruit qui glorifie le Seigneur. D'être en communion, vivre dans une intimité particulière avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Vous avez tous les dons, c'est formidable, mais Dieu vous a appelé à sa communion, à la communion de son Fils Jésus-Christ. » Et il termine la deuxième épître aux Corinthiens par ces mots « Que la communion, que la communication du Saint-Esprit soit avec vous. » En gros, c'est formidable les dons, mais n'oubliez surtout pas mon dernier mot, Église de Corinthe, la communion, la relation, l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est fondamental, c'est ce qui garantira tout le reste. Vous avez remarqué que ce torrent qui sort, qui jaillit de la maison, la Bible nous dit que cet homme va être amené à le traverser. On va lui faire une traversée. Et cette traversée se résume en 4 étapes bien définies, bien claires. La première, c'est que ce courant va devoir toucher ses chevilles. Cela nous parle non pas du baptême dans le Saint-Esprit, mais cela nous parle de la nécessité de marcher selon l'Esprit, d'avoir une vie conforme à Dieu. Marcher selon l'Esprit, c'est marcher selon le caractère ou selon les qualités de Dieu dans nos vies. Dans les Galates, au chapitre 6 et au verset 16, l'apôtre Paul dit « Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Ils sont opposés entre eux. Est-ce que vous connaissez parfois dans votre vie cette opposition? L'apôtre Paul, Romains 7, dira « Je ne fais pas le bien que je veux faire et je fais le mal que je ne veux pas faire. » Et pour pouvoir triompher de cette opposition à l'intérieur de lui, il devra aller plus loin, rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ et entrer dans Romains 8 qui nous parle de la loi de vie, de la loi du Saint-Esprit qui nous permet de neutraliser, qui nous permet de résister aux tentations, de résister à la loi du péché, la loi de l'esprit de vie, dit Paul, m'a affranchi. Vous aimez la liberté ? La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Le péché nous entraîne vers le bas, la loi du Saint-Esprit nous élève vers les choses d'en haut, que son nom soit béni. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, la pornographie, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles. Il n'y a pas de ça hein, ici, jamais. Les jalousies. Non plus. Les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Paul dit, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu, mais le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Et si vous voulez réviser ce qu'est l'amour, vous allez dans 1 Corinthiens 13. C'est formidable. L'amour ne s'irrite pas. L'amour est patient. C'est bon, ça, hein ? Vivre ces choses dans nos cœurs, en réalité, d'une façon authentique. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Alléluia. Hier, je parlais aux jeunes de ces deux jeunes qui, au final, ne connaissaient pas la joie, le fils prodigue et le fils aîné. Celui qui était dehors, il ne pouvait plus la connaître, et celui qui était à l'intérieur ne la connaissait pas non plus. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, la loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Ça fait mal, ça, hein, la crucifixion. C'est pas rigolo, hein. C'est pas marrant. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair. Vous allez me dire, mais ça bouge encore. Mais la crucifixion, c'était une mort lente. Avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Mais en réalité, parfois, certains d'entre nous ne pouvons pas marcher parce que nos chevilles sont malades. On est assis, boiteux, entre deux. Ça vous rappelle quelque chose, cet homme à la porte du temple ? Mais béni soit Dieu pour ces hommes, Pierre et Jean, qui n'ont pas attendu d'être dans le temple pour prophétiser, pour manifester une parole de connaissance. À la porte du temple, ça veut dire qu'ils s'étaient sans doute préparés pour la réunion de prière. Ils étaient en communion en permanence avec Dieu. C'est supérieur, voyez, de vivre en permanence, en tout temps, en tout lieu, dans l'intimité avec Dieu, pour être attentif à ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu n'agit pas seulement dans le cadre de nos réunions le dimanche matin, mais Dieu agit aussi lorsque nous sommes au travail, lorsque nous sommes à l'extérieur, lorsque nous allons faire nos courses, lorsque nous sommes à la caisse, et que c'est long. Dieu peut même agir là. Jésus nous a appelés à aller dans le monde, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et vous voyez les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils sont où les démons? Ils sont dans le monde. Et ces miracles qui nous accompagnent, qui accompagnent tous ceux qui croient, tous ceux qui vivent leur foi de façon profonde, authentique et véritable, eh bien tous ces hommes-là, ils vivent le surnaturel de Dieu dans le monde, à l'extérieur du temple. Et là, ces hommes, alors qu'ils sont à l'extérieur du temple, la Bible nous dit que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Quand on va au temple, on monte toujours. On s'élève toujours. On prend toujours de l'altitude. Quand on va à la réunion de prière, c'est forcément une bénédiction pour notre vie et nous prenons de l'altitude. Ils montaient ensemble, même si ici, il y a un aspect, bien sûr, géographique à la chose. Il y avait là un homme boiteux de naissance, qu'on portait, qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle. Il devait la connaître, cette porte. Un homme qu'on portait toujours. Et il y a des gens comme cela, qu'on est constamment obligé de porter. On ne vous le dit pas parce qu'on vous aime. Alors la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Certains voient ici l'encouragement, mais parfois il est nécessaire. La Bible parle des faibles. Eh bien, que certains soient portés. Mais est-ce que pour toi, bien-aimé, ce matin, le temps ne serait pas venu pour que tu puisses non plus être porté, mais que tu puisses être de ceux qui vont porter d'autres, qui vont relever d'autres, qui vont encourager d'autres, qui vont parler de la part de Dieu à d'autres. Et ces hommes, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». C'est bien aussi de pouvoir regarder ailleurs que sur nos propres besoins. Parfois, on fait du nombrilisme évangélique. Vous avez vu ça un peu ? Là, j'ai mal ici, j'ai mal là. Ça va pas, pasteur, priez pour moi. Bien sûr, on le fait et on le fera toujours. Mais regardez aux autres. Et la Bible nous dit que cet homme qui était à la porte du temple va entendre quelque chose qui va changer sa vie. « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, disent les hommes de Dieu, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Ça marche l'évangile. C'est toujours d'actualité l'évangile. C'est toujours une puissance pour relever celui qui boite, celui qui ne sait pas marcher. Par la puissance du Saint-Esprit, Dieu peut faire des choses comme ça encore aujourd'hui. Dieu peut te remettre en route. La Bible dit qu'au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. Il va faire plus que marcher, notre frère l'a souligné tout à l'heure. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant. Ça veut dire que ça tenait bien, voyez ? C'était du solide. Ce que Dieu fait, c'est du solide, bien-aimé. Si Dieu nous affranchit des œuvres de la chair, c'est du solide, c'est du sérieux. Il peut le faire. Oui, tu peux avoir la victoire sur tes tendances charnelles. Oui, tu peux vivre libre, complètement libre, sur le péché, sur ses attractions et sur ses attraits. Bien sûr que c'est possible de marcher droit, devant soi. Et de marcher dans l'assistance du Saint-Esprit. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. C'est clair que quand on est affranchi du pouvoir du péché, on loue Dieu. On loue Dieu. Quand on marche droit avec le Seigneur, quand le courant a touché nos chevilles, quand la présence de Dieu dans nos vies nous met en route, nous met en marche, c'est clair que Dieu met dans notre vie, dans ta vie, dans ma vie, une louange. Alléluia. Comment marches-tu, bien-aimé ? Savez que, je le dis moi souvent, à mon église, il y a une manière de faire les choses. Ce n'est pas parce qu'on fait une chose bonne qu'elle est forcément bonne. Tout à l'heure, je disais, celui qui sert Christ de cette manière est agréable, est approuvé de Dieu. Il y a une manière de servir Dieu. Il y a une manière de bâtir, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. On peut bâtir avec de l'or, de l'argent et puis des métaux moins précieux. Il y a une manière même de courir dans la carrière. L'apôtre Paul dit « courez de manière à remporter le prix ». Et vous savez comme moi, si vous avez vu les JO ou je ne sais quoi, on peut se disqualifier dans la course. Il y a des choses qui nous disqualifieront si nous ne veillons pas. Comme il y a aussi une manière, et j'espère que c'est mon cas ce matin, de parler. Il est dit par exemple qu'ils parlèrent de telle manière que beaucoup crurent. Ils avaient des bouches en or, ces gars-là, parce que leur bouche était utilisée, leur bouche était le canal du Saint-Esprit. Et leur façon de parler, eh bien, a favorisé le développement, la croissance. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de dire les choses, afin que nous soyons entendus, écoutés, compris. J'espère que vous me comprenez ce matin. Eh bien, il y a une manière de marcher. La Bible dit de marcher d'une manière digne de Dieu. Et c'est clair qu'en boitant, c'est peut-être spirituel ce que je dis, mais le prophète disait « Jusqu'à quand boiterez-vous ? Jusqu'à quand ?» Dieu veut toucher tes pieds, tes chevilles, pour que tu marches avec l'aide du Saint-Esprit, que tu marches selon l'Esprit. Et bien sûr, pour tenir ferme, il est incontournable d'aller au deuxième point qui nous parle des genoux. Jésus disait « Veillez, veillez, mais ça ne suffit pas. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Je suis convaincu que la volonté de Dieu, c'est de nous tenir debout. C'est que nous soyons droits sur nos pieds. La Bible dit à celui qui peut vous garder de toute chute, à celui qui peut vous garder debout face à la tentation, face à l'oppression, face au combat de la vie, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'apôtre aux Hébreux, au chapitre 12, dans le contexte de la discipline, car il peut arriver que Dieu nous discipline, il est dit ceci, « Fortifiez donc vos mains languissantes, Hébreux 12, 12, et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Comment vont vos genoux ce matin ? Comment se porte votre vie de prière ? Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Daniel. La Bible nous dit qu'il se mettait à genoux 3 fois par jour et il priait et louait son Dieu. 3 fois par jour. Je dirais qu'il avait une vie de prière en bonne santé. Est-ce que votre vie de prière ce matin est en bon état ? Il y a quelque chose qui m'a marqué dans mon enfance. Ma grand-mère, elle étant chrétienne, à certains moments, elle me disait « Allez, Yvan, viens, on va prier. » Et on allait dans sa chambre, dans la chambre de ma grand-mère, et là, on se mettait à genoux, tous les deux. Et puis, je l'écoutais prier. Et ça me faisait du bien. Alors maintenant, ma grand-mère, elle ne peut plus le faire, se mettre à genoux. Mais parfois, elle le fait encore, je crois, parce que pour elle, c'est important. Mais après, c'est plus compliqué pour se relever, voyez. Mais au-delà de la position, est-ce que notre vie de prière est en bonne santé? Est-ce que je suis connu comme étant quelqu'un qui prie? Parce qu'on peut en faire des choses inutiles ici-bas. On peut en faire plein de choses. Mais se tenir au pied du Seigneur. Jésus disait, c'est une bonne part. C'est la bonne part. Marie a choisi la bonne part. La meilleure des parts qui ne lui sera jamais ôtée. Quand je méditais cela ce matin, je me suis levé de bonne heure. L'Église était à genoux. L'Église des Actes était une Église à genoux. Et la Bible dit que tout le monde était à genoux, même les enfants. Alors en son temps, je ne sais pas si c'est toujours le cas ici, je sais que dans les réunions de prière, on se mettait à genoux. Mais ce n'est pas ça qui compte. Mais ça montre la disposition de cœur. Il est dit par exemple, « Mais lorsque nous fûmes au terme des 7 jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusqu'à l'extérieur de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. » C'est qui ? C'est Paul. Et les quelques croyants qui étaient là, il allait leur dire au revoir. Et de façon spontanée, non calculée, c'était pas la pratique religieuse sans doute, ils n'étaient pas dans un local, ils étaient sur le rivage. Mais quand nous partons pour des missions, quand nous partons pour des projets, est-ce qu'il n'est pas indispensable que les hommes, les femmes et même les enfants, est-ce que c'est pas interdit, non ? D'amener les enfants à prier, d'amener les enfants à se familiariser, si je puis dire, avec la vie de l'esprit. Oui, moi j'ai été marqué dans mon enfance par une mamie à genoux, par une mamie qui savait fléchir les genoux devant le Père, qui savait, eh bien, dans la prière, dire non pas ma volonté, mais ta volonté, parce que c'est ça, véritablement prier. Prier, c'est pas prier à la façon du jukebox. Je mets une pièce et puis Dieu m'exauce sur le champ. Prier, c'est se placer devant Dieu, c'est fléchir nos genoux, fléchir notre âme et dire à Dieu, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et parfois, on ne sait même pas ce que Dieu veut. Vous avez remarqué ? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire si ce n'est prendre du temps dans la présence de Dieu et de dire, Seigneur, éclaire-moi. Montre-moi la voie que je dois suivre. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Il arrive parfois que nous soyons dans des moments de nos vies où nous ne savons pas toujours ce qu'il faut faire. Et je relisais, moi, ce verset pour ma part personnelle dans ma méditation quotidienne lorsqu'il est dit que c'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à nous de faire ce qu'on veut, d'aller où on veut. C'est à Dieu de nous diriger par son esprit. Le Seigneur Jésus dira à un moment donné à l'apôtre Pierre, quand tu étais jeune, tu allais où tu allais, tu venais, tu faisais ce que tu voulais, Pierre. Mais quand tu seras vieux, oh, je pense qu'il y a des choses pour les accepter, on a besoin de maturité. Un autre te conduira là où tu ne voudras pas aller. Et on a un problème sérieux parfois avec notre volonté. Parce que nous sommes des gens de caractère, de décision. Quand on a dit quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autrement. Ouais. Mais des fois, c'est Dieu qui dit stop. C'est Dieu qui dit aux limites de la mer, arrête, tais-toi, stop là. C'est lui qui bride l'orgueil. Et on a besoin, frères et sœurs, dans la prière, au-delà du symbole, je le répète, de fléchir les genoux et d'apprendre, enfin, de prier selon l'Esprit. Parce que c'est ça, prier selon l'Esprit. Ce n'est pas déballer des prières. Prier selon l'Esprit, c'est prier ce que Dieu veut que nous prions. Et Jean va dire, alors là, si on prie ce que Dieu veut que nous prions, forcément, il nous écoute. Est-ce que c'est possible que Dieu ne nous écoute pas, des fois ? Est-ce que c'est possible que Dieu nous ait dit non et que nous continuions à prier pour la chose pour laquelle Dieu nous a dit non, en manque de discernement, frères et sœurs ? On s'acharne derrière des portes fermées. Moi, un jour, Dieu m'a dit, quelqu'un m'avait ramené devant une porte fermée. Un frère, un pasteur m'avait dit, mais Dieu m'avait dit non. Mais si nous, on enfonce les portes que Dieu a fermées, on va avoir des problèmes, voyez. Prier selon l'Esprit, c'est prier les prières de Dieu dans nos vies et dans nos cœurs. Et c'est peut-être prier plus souvent en disant, Seigneur, montre-moi. Seigneur, donne-moi l'écoute, donne-moi la capacité de discerner quelle est ta volonté, afin que je puisse bien prier. Parce que des fois, ce n'est pas de l'acharnement thérapeutique, c'est de l'acharnement spirituel. Mais des fois, Dieu dit non, mon frère, ma sœur. Des fois, Dieu dit oui, son oui nous réjouit. Je fais un peu de poésie, son non nous confond. Mais il a toujours raison, qu'il dise oui ou qu'il dise non. Alors acceptons-le, son non. Parfois, il dit « Attends encore un peu ». Alors là, on a besoin de persévérer dans la prière, à genoux, de continuer à prier. Parce que nous savons au fond de notre cœur que c'est forcément le plan de Dieu. Quand nous prions pour le salut de nos bien-aimés, c'est le plan de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous pouvez y aller. Vous pouvez prendre l'annuaire de la lettre A à Z et prier pour tous les gens de l'agglomération toulousaine. Vous serez forcément dans la volonté de Dieu en priant ainsi. En priant par le Saint-Esprit. En priant selon la pensée de Dieu. Mais prier selon l'Esprit, c'est aussi et sans doute prier en esprit, en langue. L'apôtre Paul dit « Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières. » Nous ne le savons pas. Il arrive parfois que nous ne savons pas ce qu'il faut dire à Dieu. Nous sommes limités. Mais l'Esprit, une de ses actions, lui-même, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, et la Bible dit qu'il intercède lui-même au travers de nous par des soupirs inexprimables. Bien-aimés, je vais sauter le troisième point et je vais aller tout de suite au quatrième. Est-ce que vous n'avez pas envie ce matin de nager dans l'Esprit, de vous laisser diriger complètement par le Saint-Esprit? La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Et Paul, il ne se trompe pas dans le vocabulaire. Vous savez, c'était un juif, il avait fait ses doctorats, et pour lui, un iota, c'était un iota, il avait étudié au pied de Gamaliel, il savait ce qu'il disait quand il parlait de l'enfant, quand il parlait de l'adoption et quand il parlait du fils. Le fils, c'est celui qui a grandi, qui est parvenu à une stature de maturité spirituelle et qui est rendu capable de naviguer, de suivre les indications guidées par le Saint-Esprit. Moi, ce matin, je suis venu avec mon GPS. Je ne serais peut-être sans doute pas arrivé si je n'avais pas eu de GPS ou de carte. Mais j'ai écouté la voix du GPS. Et comme notre vie est beaucoup plus facile quand on se laisse diriger par le Saint-Esprit, vous ne trouvez pas ? Plutôt que de lui résister. Étienne disait, vous résistez, vous opposez au Saint-Esprit. Et dit pas de temps en temps, toujours. Oh là là, que c'est pénible ça. Des gens qui résistent, qui s'opposent au Saint-Esprit. Quelques mots sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit nous communique plus de vie, plus de vigueur, plus de vision, plus d'onction. Mais je dirais deux choses fondamentales. C'est que on peut avoir été baptisé d'eau, mais s'arrêter là, ce n'est pas suffisant. Moi, je le dis, je suis un peu fondamentaliste, peut-être. Hier, je me suis arrêté à l'école biblique et je mangeais avec un frère qui a écrit 900 pages à Vaux-sur-Seine, donc qui enseigne la théologie du Saint-Esprit. Et donc moi, je lui ai posé simplement en mangeant cette question, je lui ai dit « Alors, est-ce que le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue, oui ou non ?» Alors, je me dis « Vaux-sur-Seine hein ?» Et il m'a dit « Frère, j'ai écrit 900 pages et je vous dis oui. » Ouh ! Comme ça, on est rassuré par rapport aux vérités fondamentales de nos assemblées de Dieu. Quand on est rempli du Saint-Esprit, ça se voit et ça s'entend. Et ce serait dommage d'en rester seulement au baptême d'eau qui nous fait naître de nouveau. Ou plutôt, ce n'est pas le baptême d'eau qui nous fait naître de nouveau, parce qu'on est né de nouveau, on se fait baptiser d'eau. Les apôtres, quand ils sont arrivés en Samarie, il y a les deux baptêmes ici. Philippe baptise les multitudes qui ont cru, et il est dit, acte 8, 14, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement, et moi ce petit mot il me plaît, seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains, ils reçurent le Saint-Esprit. Bien-aimés, cet après-midi, vous allez être seulement baptisés d'eau. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas grave, ce n'est pas important. C'est fondamental, c'est essentiel. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Si je puis dire, c'est acte 1, mais acte 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le Saint-Esprit veut descendre sur vous, bien-aimés. Il veut descendre et peut-être, je dirais, redescendre sur nous. Parce que ce n'est pas parce qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien, il y a quelques années, que nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'être renouvelés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait, soyez en permanence, continuellement, remplis du Saint-Esprit. La Bible dit que Dieu, sa vigne, il arrose en permanence. Dieu veut en plein vol nous ravitailler, à l'image de ces avions qui sont ravitaillés en plein vol. Bien-aimés, Dieu n'a pas prévu pour nous des hauts et des bas. On parle souvent de visitation du Saint-Esprit, et gloire à Dieu pour les visitations, mais Dieu a prévu pour nous mieux encore. Dieu a prévu que nous soyons une habitation de Dieu en esprit, et que nous soyons en permanence remplis et re-remplis du Saint-Esprit, parce que les coups durs sont là, les épreuves sont là. Et pour pouvoir vivre une vie chrétienne pétillante, ça se dit ça, qui fait plaisir à voir. Vous savez que les chrétiens, ils font plaisir à voir. Hein. La Bible dit que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de tristesse. Pardon. Comme c'est la fin, de joie. Ils étaient pleins d'Esprit Saint, de foi, de joie. Il y avait une ferveur, il y avait un dynamisme, il y avait une force, il y avait une autorité sur ces gens-là. Et quand ils priaient, il n'y a pas que les cœurs qui tremblaient, même les murs tremblaient. La Bible dit qu'ils élevèrent la voix vers Dieu, tous ensemble. Tous ensemble. Et leurs prières étaient vraiment des prières spirituelles. Ils ne priaient pas pour que les choses s'améliorent, mais ils priaient afin qu'ils aient de plus en plus d'assurance dans l'annonce de la parole de Dieu, que Dieu étende sa main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit, quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ce tous, il revient plusieurs fois dans les actes des apôtres. Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas réservé aux pasteurs, même si on en a sans doute besoin plus que les autres, parce que nous sommes amenés à prendre la parole publiquement, etc. Mais nous sommes tous appelés à être remplis du Saint-Esprit. Et la Bible dit que le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Je dirais en d'autres mots, ils étaient pertinents. Ils parlaient le langage de Dieu. Ils annonçaient la parole. Vous savez que le Nouveau Testament, à ce moment-là, n'était pas encore écrit. C'est une chose de parler de Dieu. C'est une chose de parler des choses qui concernent le royaume de Dieu. C'en est une autre, de parler de la part de Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi ce que je veux, ce que je cherche, c'est parler de sa part. Que les gens ne puissent pas dire qu'on parle bien, ça n'aurait aucun intérêt, ça n'apporterait rien. Mais que les gens puissent dire, Dieu est réellement au milieu d'eux. C'est la voix de Dieu, de l'Esprit qu'on a entendu. C'est ça qu'on doit rechercher. Dieu dit, je vous donnerai de la pertinence, une bouche. Et une sagesse que même les plus grands détracteurs ne pourront pas contredire. La Bible dit qu'on ne pouvait résister à la sagesse par laquelle Étienne parlait. Il possédait une langue, si je puis dire, et une sagesse qui marquait que Dieu était là. C'était incontestable. Que Dieu nous donne, bien-aimés, d'être ce matin peut-être ranimés, renouvelés. Ce n'est pas la volonté de Dieu, je le dis, même si ça peut être un peu dur. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous soyons dans la crainte, que nous manquions d'assurance, que nous soyons dans l'inquiétude, que nous soyons sous le joug de l'intimidation. Ça, ce sont les attaques de l'ennemi. Il cherche à intimider le peuple de Dieu. Il cherche à intimider les serviteurs de Dieu. Mais Paul disait à Timothée, « Timothée, ranime la flamme, la passion, la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité, d'intimidation que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, c'est-à-dire d'autorité, d'énergie, de puissance, de force, d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit, ce matin, veut que tu nages là-dedans. Il veut que tu nages dans sa force, dans son amour, dans sa sagesse. Il veut nous remplir. Moi, je prie de vivre ce qu'un jour Pierre a vécu chez Corneille. Il ne savait pas comment conclure. Il n'a pas pu apporter de conclusion à sa prédication. Il a parlé de Jésus. Il n'a pas prêché cet après-midi. Nous ne parlerons pas d'autre chose ou de quelqu'un d'autre que de Jésus, de Jésus-Christ crucifié, de Jésus-Christ ressuscité et glorifié. Et pendant qu'il parlait de Jésus, oui, quand nos cœurs sont amoureux, si je puis dire, de Jésus, eh bien, le Saint-Esprit est d'accord avec la prédication. Le Saint-Esprit est d'accord quand on parle de Jésus. Et là, il est descendu, la Bible dit. Ils se sont mis à parler en langue. Ils sont partis dans une réunion de prière fervente, glorieuse. Et Pierre a été étonné parce qu'eux, pour le coup, n'avaient pas été baptisés d'eau encore. Dieu fait ce qu'il veut. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Si le Saint-Esprit, maintenant, veut te remplir, il va le faire. Je me rappelle, dans le cadre d'une réunion, une sœur qui cherchait le baptême du Saint-Esprit, elle sentait pendant la prédication, ça montait. Elle me disait, mais en plus, le prédicateur parlait, elle ne pouvait pas se lever, puis là, couper le prédicateur. Dès que le prédicateur a dit Amen, elle est sortie, elle est allée dans les toilettes, et Rapakaparasana parlait en langue dans les toilettes. Ça a jailli. Acte 10. Pendant la prédication, que ce matin le fleuve de Dieu puisse couler. Peut-être un dernier mot pour quelqu'un qui est découragé, qui est accablé. La Bible dit, il boit au torrent pendant la marche. Ce torrent qui coule encore aujourd'hui, qui sort du temple, c'est spirituel bien sûr, mais c'est réel. La Bible parle des perfections invisibles de Dieu. Il y a des choses que nous ne voyons pas, mais qui sont réelles. Eh bien, ce matin, il y a un fleuve qui sort de l'autel. Comme nous le chantons, la grâce coule de la croix. Le torrent du Saint-Esprit coule encore aujourd'hui. Et tu n'es pas obligé de t'arrêter. Tu peux tout simplement, pendant la marche, te rafraîchir, te renouveler. Tu n'es pas obligé de démissionner. Tu n'es pas obligé d'arrêter. Tu peux continuer et boire au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Je le dis, frères et sœurs, quelqu'un qui s'abreuve au torrent de sa grâce, au torrent du Saint-Esprit, il pourra aller jusqu'au bout du chemin. Parce que ce torrent n'est pas quelque chose qui est une vue de l'esprit, c'est pas quelque chose qui n'existe pas, c'est une réalité spirituelle que le peuple de Pentecôte vit à tous les jours. Tous les jours, je vous exhorte à parler en langue. Tous les jours, je vous exhorte à prendre du temps, à vous renouveler, à vous édifier dans la présence de Dieu. Et vous allez voir que par sa puissance, le Saint-Esprit est capable de nous faire marcher droit, est capable de nous donner une vie de prière percutante, pertinente, un témoignage pertinent, que son nom soit glorifié. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Merci pour le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Seigneur, je prie afin que le torrent coule. Je prie, Seigneur, afin que ce torrent qui a porté la guérison, qui a porté la multiplication, ce torrent qui a porté l'assainissement, Seigneur, je prie afin que là où il y avait la mort, eh bien, ce torrent donne la vie, donne la santé et puisse porter du fruit en abondance. La Bible dit qu'il y avait beaucoup de fruits. Seigneur, que ton esprit coule au milieu de nous et que celui ou celle qui est découragé, qui a besoin de se rafraîchir, de se renouveler en toi, le soit ce matin. Seigneur, nous ne voulons pas seulement avoir été baptisés d'eau, mais nous voulons être baptisés d'Esprit Saint et de feu. Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Dans le nom de Jésus, renouvelle et encourage chacun dans la vie de l'Esprit. À toi la gloire. Amen.